Gloire à Dieu, nous continuons notre série Béréen l'explorateur pour apprendre la parole de Dieu, apprendre ce qu'il attend de nous, ce qu'il a prévu aussi pour notre construction et notre avenir. Et la parole de Dieu joue tous les rôles, le rôle de nourriture, de médicament, de respirateur, tout ce qu'on veut pour la vie spirituelle de l'enfant de Dieu, surtout lorsque nous l'écoutons, nous l'utilisons avec la prière. Donc quand on entend la parole, on la saisit, on prie pour qu'elle devienne réalité en nous. C'est ça la manière la plus efficace de saisir la parole de Dieu, c'est doubler de la prière pour que ça s'accomplisse dans nos vies. Et Dieu est fidèle, il agira. Et nous en sommes au psaume 132. Voilà, psaume 132 qui parle de la relation entre Dieu et David. Psaume 132.
Psaume 132. Cantique des degrés. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Éphrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. L'Éternel, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos. Toi et l'arche de ta majesté, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie à cause de David, ton serviteur. Ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours, seront assis sur ton trône.
Voilà, donc on s'arrête là pour un moment pour dire que là, on rappelle la relation forte entre Dieu et David. Et dans cette relation-là, David a manifesté son grand amour pour Dieu au point de dire qu'il ne sera pas à l'aise dans son palais à lui tant que le temple de Dieu ne serait pas construit. Nous savons la suite, c'est que c'est Salomon qui l'a construit. Mais toutefois, l'amour de David pour Dieu est resté comme une marque concernant la relation entre Dieu et Israël. Et par la suite, on verra que dans les prophéties et dans les discours de Dieu, reviendra souvent la phrase « à cause de David, mon serviteur ». À cause de David, il y a eu comme une sorte de grande marque d'amour entre David et Dieu, et qui est restée comme le repère de Dieu pour bénir Israël. Et là, il promet qu'il mettra toujours sur le trône d'Israël un descendant de David. Et là, il dit encore que l'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils auront pour toujours, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Voilà la promesse que le Seigneur fait à David. Et nous savons que cette promesse s'accomplit parfaitement en Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus marchait, il y a un aveugle qui a crié « Jésus, fils de David !» Fils de David, donc c'est lui le roi qui vient accomplir la promesse qui est donnée que sur le trône, il y aura toujours un descendant de David. Or, nous savons tous que le royaume avait disparu à un moment donné, mais il y a un royaume qui est éternel, dont le fils de Dieu est le roi des rois, mais ce fils de Dieu-là, en tant que fils d'homme, il est descendant de David. Donc cette promesse va s'accomplir. Ça nous montre en même temps l'efficacité de la parole qui ne se retranche pas, qui ne change pas, qui s'accomplit toujours. Je voulais dire aussi que L'histoire entre Dieu et David nous permet de comprendre ce que Dieu attend d'un homme. Parce que Dieu a dit concernant David, je me suis choisi un homme selon mon cœur. Donc ça nous permet de se dire, mais comment puis-je plaire à Dieu? Comment puis-je être selon le cœur de Dieu? C'est observer qu'est-ce qui a été le point le plus important que Dieu a remarqué chez David. C'est cet amour pour lui, formidable, important, extraordinaire, qui l'a amené à plusieurs reprises à faire des sacrifices pour Dieu. On se souvient, à un moment donné, les soldats de David avaient traversé le camp ennemi et avaient ramené de l'eau pour David. Et David avait pris cette eau-là, il avait renversé par terre, il avait dit, mais ce niveau de sacrifice, Dieu seul mérite cela. Voilà, donc David avait, un, de l'amour fort pour Dieu, de deux, il s'inclinait devant Dieu, il s'humiliait devant Dieu, il mettait Dieu au-dessus. C'est ça qui fait que, par conséquent, il avait l'esprit d'adoration et de louange. Un quatrième point sur David, c'est que on ne voit nulle part David contester avec Dieu. Voilà. Il était quelqu'un qui voulait tout faire selon Dieu et il, même pour des guerres simples, il demandait toujours l'avis de Dieu, je fais quoi? Et la seule fois peut-être qu'il n'a pas fait, c'est ça qui a entraîné sa grosse chute, c'est pour nous montrer, pour finir, qu'il n'était pas parfait. Mais Dieu ne nous aime pas parce qu'on est parfait, mais il s'attache à nous, puisque nous on s'attache à lui. C'est écrit dans Jacques, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Voilà, David s'attachait vraiment à Dieu, il avait foi en Dieu, il était humble vis-à-vis de Dieu, il aimait Dieu au point de se mettre en dessous de Dieu. Et tout ça fait, tout ça réuni, nous montre ce que Dieu attend de nous. Voilà, certains cherchent pour se sentir bien avec Dieu à être parfait, mais ce n'est pas ça. C'est bien d'être parfait, comme on dit, soyez, comme il est écrit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. C'est très bien, mais nous ne devons pas chercher, nous ne devons pas tirer notre joie de cette perfection-là, mais tirer notre joie de notre relation avec Dieu, qui doit être totale, remplie d'amour, remplie de foi et d'humilité. C'est ça qui fait que David a marqué le Seigneur, au point que maintenant l'alliance avec Israël, c'était comme si ça reposait sur la relation entre David et Dieu. Et c'est parti jusqu'au niveau qu'ils lui promettent qu'il y aura toujours un fils à lui, un descendant à lui sur le trône. Nous continuons. Maintenant, on va parler un peu de Jérusalem, verset 13.
Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasirai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne.
Voilà. Là, on nous dit que finalement, Dieu a choisi Sion. Oui, l'Éternel a choisi Sion. Il l'a désiré pour sa demeure. Donc, Jérusalem a été choisie par Dieu comme sa demeure ici sur terre. Et on sait que même définitivement, où est-ce que Dieu habitera? Dans la ville qu'on va appeler la nouvelle Jérusalem. C'est un choix définitif de Dieu. Vous savez, Dieu a fondé, a créé toute la terre, mais il a quand même une place propre à lui, c'est Jérusalem. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'il dit là. Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure, même s'il est partout. Mais il a un lieu qu'il se dit à lui, c'est Jérusalem. Et c'est pourquoi il y a toute cette tension autour de Jérusalem causée par une sorte de pression spirituelle due au fait que Dieu a choisi ce lieu-là. Et il est écrit, hein, on nous décrit toutes les joies, toute la gloire de Jérusalem à venir. Et on nous dit, là j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. On sait que Jésus régnera. Nous connaissons les derniers passages d'Apocalypse où on voit à la Nouvelle Jérusalem Jésus sur le trône en tant qu'agneau de Dieu. Et les gens vont faire une sorte de défilé pour honorer, se prosterner, reconnaître sa grandeur. Voilà, toutes ces prophéties sont décrites dans la parole, dans plusieurs endroits, notamment dans ce psaume 132. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce psaume nous montre vraiment le lien entre David et Dieu. Donc ça devrait nous aider à continuer, à nous aider à chercher, à comprendre comment était David. Ça devrait nous aider à comprendre comment était David. Chercher à voir quel lien il avait avec Dieu. Voilà, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et deuxièmement, nous voyons que la prophétie sur les rois d'Israël s'accomplit pleinement en Jésus et Dieu a choisi Jérusalem comme son endroit particulier. Même si là où deux ou trois sont réunis, il est là, mais il a un endroit particulier sur terre, c'est Jérusalem. Nous continuons avec le psaume 133, un psaume merveilleux, voilà, que nous devrions tous connaître.
Psaume 133, Cantique des degrés, de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Amen, amen. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous allons parler de la puissance de l'unité dans ce psaume. La puissance de l'unité. Vous savez qu'il y a presque un chapitre du Nouveau Testament consacré à une prière pour l'unité. Nous allons lire ce chapitre-là dans Jean 17 pour voilà, corroborer ce psaume 133. Jean 17, c'est toute une prière du Seigneur pour l'unité. Alors, je voudrais vraiment que nous soyons attentifs à cela. On se crée trop de conflits entre nous, trop de divisions bêtes. Je dis bien bêtes parce que les divisions sérieuses, c'est bien. Voilà. On doit se séparer s'il y a un problème sur la vérité. C'est très bien même. Voilà. On ne peut pas faire de compromis sur la vérité. 2 Corinthiens 6, 14 à 19 nous dit que nous n'avons pas à nous mettre dans un attelage disparate avec les infidèles. Mais, entre vrais enfants de Dieu, il ne doit pas y avoir de division. Et entre vrais enfants de Dieu, quand il y a l'unité, il y a une grande puissance derrière cela. Et dedans. Nous allons lire déjà d'abord Jean 17, et puis nous reviendrons sur psaume 133.
Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout se soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.
Amen. Voilà, c'est toute une prière sur l'unité. Le Seigneur sait qu'il s'en va et qu'il va envoyer la grande puissance, une très grande puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et il sait que si cette puissance tombait sur ses disciples sans l'unité, ça va créer un désordre phénoménal. Parce que chacun va se croire grand prophète et va prendre sa route tout en critiquant l'autre. C'est ça le grand danger. Et bien-aimé, il prépare d'abord le terrain entre ses disciples concernant l'unité. Frères et sœurs, c'est très très important. Je dis bien l'unité dans la vérité. Mais l'unité dans la vérité ne fait pas que nous soyons individuellement parfaits. Mais au moins que nous ayons un socle de connaissances, un socle de fondation, une fondation commune, un objectif commun qui est de glorifier Jésus, qui est d'annoncer Jésus, qui est de servir Dieu et Dieu seul. Ça, c'est le socle commun, qui est de croire que Jésus est Dieu, fils de Dieu, homme, voilà, mort et ressuscité. Voilà, ce socle commun qui constitue la vie, qui constitue le salut, quand nous l'avons, quand on sait que un tel est vraiment un frère, même si on a appris qu'il m'a critiqué, je dois viser l'intérêt commun qui veut l'unité, qui veut que Dieu n'agit vraiment puissamment que lorsqu'on est unis. Donc c'est pourquoi nous revenons au psaume 133. Nous revenons au psaume 133. On va le relire. Mais je voulais montrer son analogue dans le Nouveau Testament, dans Jean 17. Donc on revient sur le psaume 133.
Psaume 133, cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Amen, amen. J'aime comme c'est écrit, la bénédiction, la vie pour l'éternité. La bénédiction symbolisée par l'huile, hein, l'huile qui est là pour nourrir, guérir. Parce que vous savez, quand les gens étaient blessés, autrefois, on leur mettait aussi de l'huile. Elle était là aussi pour permettre, comme un parfum aussi sur le corps, l'huile servait aussi à cuisiner, à faire que les gens aient de la force dans la nourriture. Et c'est ça la bénédiction. Et puis la vie, c'est l'eau. Mais vous voyez ici, la puissance de l'unité n'est pas décrite sous une forme de puissance vrombissante, donc quelque chose qui fait trembler comme la tempête, comme un vent fort, comme une grosse pluie, comme une averse. Non, c'est décrit comme de l'huile qui coule tranquillement, mais qui pourtant est essentielle pour la vie. Si on n'avait pas de lipides dans le corps, on n'a plus la vie. L'huile, c'est essentiel pour la vie dans plusieurs applications. Et là, on nous dit en plus, c'est comme l'eau. L'unité, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que nous, les gens qui vivent l'unité, ils ne vont pas se rendre compte de la grande puissance qui dégage. Parce que ça vient comme l'huile, dans la douceur de l'huile, et comme la rosée. La rosée, ce n'est pas comme la pluie qui tombe, qui fait du bruit. La rosée, tu te réveilles le matin, tu vois que l'herbe est mouillée. C'est ça la rosée. Mais pourtant, ça peut suffire à faire grandir des plantes, à faire grandir la vie, cette rosée-là, puisque c'est une rosée divine. Et vous voyez, c'est ça l'unité. Donc quand les gens sont dans l'unité, dans la paix, l'amour et la joie, se dégage une puissance que eux-mêmes ne voient pas. Parce que l'autre puissance, la puissance qui peut faire que, par exemple, on prie pour quelqu'un, la personne qui était handicapée, et puis elle commence à marcher. Ça, c'est visible. Tout le monde, même la personne qui a prié, voit. Tout le monde voit. Que quelqu'un prêche avec une voix forte, ça, tout le monde voit. Même la personne, elle peut s'en rendre compte. Mais la puissance de l'unité, elle est réelle. Hein? Elle est décrite dans ce texte. Elle est réelle, mais elle est invisible pour ceux qui la vivent. Parce que pour eux, ils baignent dans quelque chose de paisible, d'agréable. Mais les gens de l'extérieur, quand ils s'approchent, ils sentent qu'il y a un changement d'air. Vous savez, quand nous, on atterrit dans les pays tropicaux ou équatoriaux, que ce soit en Guyane, que ce soit, bon, peut-être aujourd'hui en Guyane, c'est climatisé, mais à l'époque, au début, là, le satellite là, n'était pas climatisé, ou dans certains pays africains qui n'ont pas de satellite, vous savez, quand vous quittez l'avion où il y a la clim, et que vous sortez de l'avion, vous avez l'impression que vous entrez dans un autre monde. C'est comme si l'air, voilà, c'est un autre air, ça vous accueille avec, ça vous étouffe, ça vient avec une pression de chaleur, c'est une autre ère. Et c'est la même sensation que les gens, les païens, ressentent quand ils s'approchent des chrétiens dans l'unité. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui vient de se faire. Je bénis le Seigneur parce que juste avant que je ne vienne là, j'écoutais un témoignage sur YouTube d'un frère qui s'était converti en 2003, un ancien musulman. Et il explique que il avait refusé l'invitation d'aller à l'église. Mais il y avait un bar du quartier en face de cette église-là, j'ai oublié la ville de France qui était comme, où il était. Alors, il s'est mis à observer la sortie de l'église, quand les gens sortent de l'église. Alors, il raconte que, mais il avait l'impression qu'ils étaient différents, ils étaient rempli d'une paix et d'une compréhension réciproque. En fait, quand il les voyait parler, il était pris par quelque chose. Il avait l'impression qu'il y avait deux mondes, le monde où il était, mais c'était en face, à quelques mètres, et l'endroit où les frères et sœurs échangeaient, discutaient, souriaient, parlaient, il avait l'impression que cet endroit-là était différent. Quand il a vu ça, il a senti qu'il lui manquait quelque chose, qu'il était dans un déficit. Au point que, et puis il a vu une fille en train de pleurer, qu'il connaissait. Il s'est approché pour dire, mais pourquoi tu pleures? Elle dit, le Seigneur s'est manifesté à moi aujourd'hui puissamment. Il dit, mais quel Seigneur? Mais le Seigneur Jésus. Alors il s'est dit, mais donc il va sortir bientôt de cette salle-là. Alors, voilà. Et c'est ça, bien-aimé. Et il était là en train d'attendre qu'il sorte, peut-être, effectivement. Quand il attendait, il a senti quelque chose sortir de cette salle et le frapper. Et lui-même était bouleversé. Par la suite, il s'est converti. C'est pour dire que là où les frères et sœurs sont dans l'unité, se dégage une force, une puissance qui n'est pas du genre à faire du bruit comme la puissance de la pluie ou de la tempête, mais qui est réelle, qui bouleverse. Mais puisque nous, on s'est focalisé sur ce qui fait du bruit, on a négligé tous les versets qui parlent d'autres puissances. Vous savez, il y a ce fameux verset où le prophète, il a demandé à voir la gloire de Dieu, et puis il sent un grand feu. Dieu n'était pas dans le grand feu, Dieu n'était pas dans la tempête. Il y a eu un peu, à un moment donné, un vent doux et léger, et Dieu était là. Nous négligeons tous ces passages qui parlent de puissance tranquille. Nous n'aimons que les passages qui parlent de puissance violente. Oh, le Seigneur nous vient encore couronner le tout avec Zacharie 4:6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance violente. Mais ce n'est pas mon esprit. L'esprit de Dieu peut agir sans qu'il y ait une puissance violente. Il peut toucher le cœur dans la tranquillité, dans la paix, où la personne t'observe et dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans ses yeux. Voilà. Rien que tes yeux vont toucher quelqu'un. Mais toi, tu ne le sais pas. Cette puissance tranquille, elle a comme particularité, c'est que la personne de qui ça se dégage, elle-même ne s'en rend pas compte elle-même aussi. Alors que la puissance forte ou violente, pas forte, mais violente, elle, tout le monde la voit, et même la personne à travers laquelle elle s'exprime. Ce qui fait que les gens ont l'habitude de négliger cette puissance tranquille, ou dans ta famille, les gens voient bien que entre toi, ta femme et tes enfants, il y a une certaine tranquillité, il y a une paix. On néglige ça et on se crée des problèmes inutilement. Or, peut-être c'est cette paix-là dans le couple qui va faire que certains vont être touchés. Des païens alentours vont être touchés. Mais on veut juste, Seigneur, manifeste des miracles, comme ça les gens seront touchés. Mais il n'y a pas que cette forme de puissance avec Dieu. Dieu est tout puissant. En lui, il y a toutes les formes de puissance et il y a la puissance de l'unité. Il y a la force de l'unité. C'est une des puissances de Dieu. C'est pourquoi il insiste. Il dit, soyez un dans Jean 17. Soyez un, soyez un. Pourquoi? Et il dit même quoi? Quelle version on a lu? Il dit que c'est comme ça que le monde saura que vous êtes de Dieu. Si vous êtes un, il le dit, qu'ils sauront qu'ils viennent de moi. Il y a une puissance dans ça. Donc le monde va connaître Dieu par l'unité des enfants de Dieu. L'unité, c'est hyper important. L'unité, ça passe par demander pardon. Quand tu t'es mal comporté, ça passe par des remises en question. Est-ce que je n'ai pas trop crié quand j'ai parlé? Est-ce que je n'ai pas... Voilà, ça passe par tout ça. L'unité, ça passe par observer les autres, voir si on ne les a pas gênés. L'unité, ça passe par la mort de l'égoïsme. Mais c'est une vraie puissance, mais ne s'en rend compte que les autres. Ceux qui pratiquent ça pensent qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Mais c'est juste qu'on ne voit pas. Moi, aujourd'hui, s'il faut pleurer pour ça, je pleure pour nous dire, bien-aimés, visons l'unité entre nous. On est différents, mais on peut être unis autour des valeurs de Jésus, autour du pardon, de l'indulgence. Hein, il est écrit, Il faut considérer les autres comme supérieurs à soi-même. C'est ça qui permet l'unité. Si tu veux à tout prix que les choses se fassent comme toi tu veux, il n'y aura pas l'unité. Il y a des moments où il faut accepter que les choses, tant que ça ne c'est pas un compromis pour toi, tant que ça ne t'emmène pas dans le péché, il faut accepter parfois que les choses ne se passent pas comme nous on voudrait. Ça permet l'unité dans la maison, à gauche, à droite. Il faut parfois, voilà, les gens choisissent telle couleur pour le salon. Toi, tu n'es pas d'accord, tu ne vas pas créer une guerre, deuxième guerre mondiale pour ça. Tu cèdes seulement. Et il faut laisser l'unité se produire, la puissance. Et il y a des champions de disputes devant les païens. Ça suffit comme ça, bien-aimé. Les chrétiens, il y en a qui sont des champions de se disputer devant les païens ou bien devant les gens qui ne sont pas encore forts en Christ. Et, non. Oui, il y a question ? Oui.
Une question Internet. Donc, il y a un internaute qui veut que tu expliques que signifie descend sur la barbe d'Aaron.
Non, Aaron, c'était le souverain sacrificateur. Et donc, quand Dieu voulait bénir son peuple, il passait par son serviteur, le souverain sacrificateur. Donc, il y avait une sorte de, d'identification entre le souverain sacrificateur et le peuple. Au fait, le souverain sacrificateur était l'image de Christ à venir. Dans Lévitique, c'est écrit que quand le souverain sacrificateur pêche, c'est comme si tout le peuple a péché. Et quand le peuple pêche, le souverain sacrificateur est condamnable. Il est considéré comme pécheur aussi. Donc il y avait une identification entre le souverain sacrificateur et le peuple. Donc du coup, quand Dieu veut, donc cette image-là de que l'huile descend sur la barbe d'Aaron, c'est l'image d'une bénédiction qui passe à travers le souverain sacrificateur pour toucher tout le peuple. Donc le souverain sacrificateur représente le peuple et pour nous ça représente Christ. Donc l'huile qui descend par la barbe d'Aaron, ça représente Christ. Ce n'est pas ce que dans le milieu de l'évangile, de l'onction et de la prospérité, on dit que c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur, c'est Christ, l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron. Dieu utilise les pasteurs, on n'en disconvient pas, mais de là à faire de centre incontournable de bénédiction pour le peuple de Dieu, ça c'est complètement faux. C'est complètement faux. Dieu qui agit, il peut utiliser son serviteur, mais c'est Dieu qui agit. Pour nous, Aaron ici représente Christ. Il ne représente pas un pasteur. Voilà. Nous continuons. Voilà, non, mais oui, je continue avant le psaume 134. Je veux dire qu'on va prier vraiment que Dieu enlève de nous l'orgueil, l'esprit compliqué. Vous savez, des gens qui ont l'esprit compliqué. Les choses parfois peuvent être simples. Eux, ils compliquent. Or, Dieu est compliqué avec ceux qui sont compliqués. Il ne faut pas qu'on soit compliqué. Dès que compliqué, ça veut dire quoi ? Faire des problèmes pour des petites choses. C'est ça compliqué. Faut qu'on apprenne à mesurer les choses. C'est très important. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier pour que nous soyons plus compliqués, Seigneur. Que nous soyons simples. Que nous puissions pas prendre des choses mineures pour des choses majeures. Que nous puissions considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Que nous puissions, Seigneur, veiller à ce qu'il y ait l'unité entre nous. Être des ministres de réconciliation. C'est toi qui nous as nommés ministres de la réconciliation, Seigneur. Que nous pratiquions ce ministère au lieu de chercher seulement les ministères en vue, Seigneur. Manifeste-toi pour nous aider à saisir ces choses, la puissance de l'unité. Seigneur, aide-nous à accepter d'être inférieur, accepter d'être critiqué, comme disait mon ami Umbrand, Seigneur, que lorsque nous sommes critiqués, c'est la preuve que la gloire ne doit être rendue qu'à Dieu seul. Seigneur, qu'on accepte cela et que ton œuvre avance, l'amour avance entre nous. Seigneur, nous t'en prions. Agis au milieu des chrétiens d'aujourd'hui. Seigneur, je sais que ça fait partie des paramètres qui bloquent le réveil, la division latente due à la recherche d'intérêts personnels, Seigneur. Nous voulons bannir l'égoïsme du milieu de nous et rechercher toujours l'intérêt général au nom de Jésus. Amen. Nous passons au psaume 134.
Psaume 134, cantique des degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre.
Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. On se souvient aussi de la prière de la parole de Salomon le livre, je crois, de Rois, où il disait que quand ton peuple va se réunir dans 1 Rois 8, je crois, devant dans ce temple-là, exauce leur prière, quoi. Voilà, c'est pourquoi il y a aujourd'hui encore le mur de lamentation où les gens amènent les prières là. Mais Dieu bien-aimé peut agir lorsqu'on le prie partout. Voilà. On n'est pas obligé d'aller là-bas, mais il y a une symbolique puissante liée à Sion. Voilà, liée à Jérusalem. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Dieu veut qu'on considère quand même ce symbolisme-là. Sinon, il n'aurait pas laissé tous ces versets dans la parole. On ne sait pas comment ça se gère, mais il y a une importance par rapport à tout cela. Il ne faut pas prendre ça à la légère. On sait tous que Dieu est partout, il nous entend partout, mais il a mis un symbole à Jérusalem qui est important. Au moment de l'utiliser, il faut y penser. Voilà, il faut y penser. Et j'aime beaucoup aussi ce psaume 134 parce que ça me rappelle toujours notre chant, le chant qu'on chante. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Parce que ce chant en réalité, et ce psaume, nous parle des gens du tour de la nuit. David avait établi des choristes pour louer Dieu par tranche d'heure. Vous voyez, on a parlé de David au psaume 132 pour dire, on dit à Dieu dans le psaume 132, souviens-toi de David. David a fait beaucoup de choses pour Dieu, notamment les psaumes. Bien sûr, quelqu'un me dira, mais c'est l'inspiration divine, gloire à Dieu, mais cette inspiration-là doit trouver un cœur disposé hein, pour pouvoir pratiquer ça. Et il a établi carrément des chorales pour chanter pour Dieu dans des tranches jusque la nuit. Et on sait que les gens de la nuit sont ceux-là qui se sacrifient le plus parce que c'est l'heure de dormir. Tu as bien mangé, on pense souvent à quoi ? À dormir, surtout à l'époque, il n'y avait pas de télévision. Et donc les gens de la nuit, c'était les gens qui faisaient un effort supplémentaire par rapport aux autres. C'est pourquoi on dit aux gens qui sont la nuit, ne relâchez pas l'effort. Il est là, il vous voit. Parce qu'on aurait tendance, nous on voit ça dans les veillées, quand on fait des veillées de prière, beaucoup dorment parfois. On aurait tendance à se relâcher comme si, bon, Dieu aussi dort. Non, Dieu ne dort pas. On leur dit, ben, bénissez l'Éternel, vous qui êtes du tour de la nuit. Il est quand même là, il vous voit. C'est important, bien-aimé, qu'on ait aussi des prières comme ça la nuit, parce que Dieu, lui, ne dort pas, contrairement à nous. S'arrêter qu'à la journée, ben, c'est pas, C'est comme si on bloquait Dieu au jour du soleil. Voilà. Dieu, même pendant la nuit, il reste Dieu. Mais voir aussi ce souci-là de David, on avait dit précédemment, quand on lisait le psaume 132, que nous devrions observer David pour voir, mais finalement, qu'est-ce qui a plu à Dieu en lui pour qu'il le retienne tant dans son cœur. Voilà, entre autres, ce geste-là d'établir des musiciens, des chantres, selon les tranches du jour, jusque dans la nuit, pour louer le Seigneur. Et là, on encourage ceux du tour de la nuit à glorifier Dieu. Et moi, je veux dire, je nous encourage à glorifier Dieu à tout moment. Voilà, une question aussi peut revenir par rapport à ceci, c'est que on entend par-ci, par-là que, ah oui, mais à telle heure, c'est là qu'il faut prier, à telle heure, est-ce que, souvent la nuit, est-ce que ça veut dire que Dieu écoute plus à telle heure ou à telle autre heure? Pas du tout. Dieu ne dort pas. Donc, il écoute de la même manière à tout moment. Mais, quel commentaire nous pourrions faire sur la nuit? Nous pouvons dire tout simplement que c'est des heures où on est le moins vigilant. Nous sommes souvent pas vigilants la nuit, puisque c'est lié au repos. Et qui dit repos, dit souvent distraction aussi. Remarquez que, voilà, c'est souvent difficile de prier la nuit. Quand tu veux prier, il y a le sommeil. Et souvent, dans certaines familles, les disputes, c'est la nuit. Et remarquez ça. C'est le temps de relâchement, où la personne relâche sa vigilance. C'est pourquoi, comme il est dit là, je dirais, oui, quand vient la nuit, il faut se mettre à penser à Dieu. Non pas qu'il écoute mieux la nuit, mais c'est pour nous empêcher à nous de nous relâcher. Ce qui peut être une porte ouverte à l'ennemi. Parce qu'il faut savoir aussi une chose, bien aimée, juste après la nuit, on dort. Enfin, quand je dis la nuit on est éveillé. Il y a une partie de la nuit on est éveillé, mais juste après la partie de la nuit on est éveillé, on dort. Il serait intéressant de dormir dans une continuité de lien avec Dieu, plutôt que dans une continuité de lien avec le monde. Or, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est qu'au moment de la partie de la nuit où on est plus ou moins en forme, les gens regardent autre chose, parlent d'autre chose, font des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Maintenant, au moment où ils s'apprêtent à aller s'endormir, ils se disent, on va penser à Dieu, mais ça devient lourd puisque là, vraiment, on est fatigué. Du coup, souvent, ça se fait à la va-vite, à la religieuse. Donc, on fait, puisque on est des chrétiens quand même, on doit prier avant de dormir. Il n'y a pas un sérieux de dire que voilà, c'est notre tour, c'est le tour de la nuit. Voilà l'exhortation que je voudrais donner, c'est que nous devrions penser à notre activité spirituelle de la nuit comme notre tour, comme le tour de la nuit. Ne pas se dire juste la petite prière avant de dormir, non, se dire, mais maintenant c'est le tour de la nuit. On a prié à 18h, c'était le tour du soir. On a prié peut-être à midi, c'était le tour de midi. On a prié le matin, maintenant c'est le tour de la nuit. Même si ce n'est pas aussi long que la prière de 18h, mais au moins, prendre ça au sérieux en disant c'est le tour de la nuit. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Que ce soit ainsi pour nous tous, au nom de Jésus. Amen. Nous passons au psaume 135. D'abord les questions.
Question Internet. Je vais la lire à l'état brut. Israël, qui est le peuple de Dieu, n'est pourtant pas faible et n'a pas d'intérêt à l'être vis-à-vis des autres. Mais pourquoi le chrétien est invité à abdiquer pour presque tout?
Je n'ai pas compris.
C'est pour ça que j'ai dit que je la lisais à l'état brut.
Israël n'est pas faible. Et nous, on est faible. Bon,
le chrétien n'est pas faible, mais c'est comme si on l'appelle à abdiquer, quoi. C'est comme on dit, c'est comme si le chrétien doit renoncer peut-être à lui-même, mais Israël, en quelque sorte, doit se défendre. Je crois que c'est...
Ah, bon, oui, Israël a une élection terrestre. Alors que nous, on a une élection céleste. Nous sommes sauvés comme citoyens du ciel. Nous n'avons pas à nous battre pour les choses de la terre. Nous devons rechercher la gloire et la puissance du ciel. C'est ça la différence entre nous et Israël. Israël a une élection, donc on a dit que toutes les familles de la terre seront bénies par Israël. Voilà, ça c'est quelque chose lié à la terre. Mais nous, nous sommes une bénédiction pour toute la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, voilà, de faire de toutes les nations des citoyens du ciel. Nous, on a un travail spirituel à faire dans les cœurs des humains, alors qu'Israël a une représentation physique à manifester auprès des humains pour montrer que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Alors que nous, c'est pas la puissance spirituelle invisible, mais qui peut se manifester aussi, comme on a dit, par l'unité, l'amour, les miracles, la prédication. Nous, c'est ça notre travail. Israël, son travail, c'est en tant qu'État, en tant que peuple, de montrer que c'est surprenant un si petit peuple rivaliser avec de grands, certainement, il y a une force qui est derrière, c'est Dieu. Donc Israël est, entre guillemets, parce que j'utilise un mot qui n'est pas conforme, il est l'évangéliste des pays, alors que nous, on est les évangélistes de l'individu. Voilà. Nous, on veut toucher un individu, mais Israël veut toucher les nations en tant que nation spéciale. Voilà. Ok. Nous passons au psaume 135.
Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartienne. Je sais que l'Éternel est grand, et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre,
Amen.
Dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la nuit, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Basan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération, car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel.
Amen, amen. Louez l'Éternel, un psaume encore qui nous rappelle à la louange, puisque Dieu est grand. Donc il y a le verset 5 qui nous dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Donc on doit louer Dieu comme étant au-dessus de tous les dieux. Mais aujourd'hui, nous, on ne voit pas forcément de Dieu comme Bouddha. C'est pour nous très facile de les considérer en dessous. quel Dieu que nous devons mépriser aujourd'hui? L'argent, par exemple. On doit sentir dans notre vie que l'argent, c'est notre marche-pied. Parce que c'est trop facile de dire que le statut de Bouddha de Bonheur, c'est rien du tout. Mais ça, même certains païens le savent. Nous, on doit aller plus loin que ça. Il y a des dieux réels qui agissent sur cette terre. C'est pas le Bouddha de Bonheur qui agit en France. C'est l'argent. C'est l'évolutionnisme. C'est la voyance. Voilà. Nous, on doit montrer notre supériorité, la supériorité de notre Dieu par rapport à tout ça. Ne pas trembler la maladie, par exemple. On dit variole du singe. Je suis sûr que certaines églises vont recommencer encore le masque là. Mais finalement, qui est le véritable Dieu? Nous, on doit montrer comme ça la gloire de notre Dieu. En le mettant au-dessus de tous les dieux. Au-dessus de tout. Tu apprends une mauvaise nouvelle d'une maladie grave ou bien de quelqu'un qui souffre, tu mets Dieu au-dessus de ça. C'est ça la louange, c'est pas seulement chanter. Attention, ne nous méprenons pas. Il faut mettre Dieu au-dessus de tout ça, c'est ça la louange. Et maintenant ça se concrétise par le chant. Beaucoup chantent, mais dès que le chant s'arrête, c'est l'abattement qui est de retour, non? La vraie louange, c'est le combattant de Josaphat. Vous voyez, donc ils ont mis les chantres, les musiciens, avant les soldats en allant en guerre. Parce qu'ils considéraient que leur Dieu est au-dessus de l'autre armée. Donc ils mettent la louange avant. Mais combien de chrétiens nous voyons-nous pas dès que les affaires arrivent, les problèmes arrivent? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Les conseils des humains, les processus humains. Mais non, bien-aimés, Dieu est au-dessus de tout. Tu apprends une mauvaise nouvelle, il faut louer Dieu. Le mettre au-dessus de la mauvaise nouvelle. Toujours. Nous allons finir avec les bien-aimés de la louange, avec « Bénissez le Seigneur ». Vous tous serviteurs du Seigneur. Voilà, je reviens encore sur la louange qui nous dit que, au verset 17, verset 16, à partir de 15, les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent. Les gens qui fabriquent ces idoles pour leur attribuer un certain pouvoir, mais ils sont autant aveugles. Comment ils ne peuvent pas voir que ce ne sont que de la matière inerte? Comment ils ne voient pas cela? Ça paraît simple. Comment ils ne voient pas que ça ne parle pas? Et du coup, eux-mêmes, ils sont pareils. Ils devraient chercher à parler à Dieu, mais ils sont muets. Et devant tout ça, on nous dit, oh, allez, n'ayez pas honte, maison d'Israël, bénissez l'Éternel, maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Voilà, bien aimé, pour parler de ces gens-là qui construisent les idoles, on m'a envoyé un texto aujourd'hui par un frère. Il est dit ceci. Quand les gens, c'est une parole de, ça doit être un serviteur de Dieu. Quand les gens cessent de croire en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien. C'est pour croire en n'importe quoi. C'est ça. Donc les gens, quand ils cessent de croire en Dieu, ils disent, ah ben, tu es athée. En réalité, quand vous allez observer dans leur vie, ils croient en quelque chose, en n'importe quoi, à leur grand-mère ou à leur grand-père, à n'importe quoi. C'est faux quand ils disent que je ne crois pas en Dieu puis je reste comme ça, c'est faux. En réalité, ils croient en autre chose, mais n'importe quoi. Et c'est ce qui est dit là, les gens qui construisent ces idoles-là, ben, sont comme ces idoles-là. N'importe quoi. C'est ça là, la réalité. C'est pourquoi on nous encourage, nous, mais vous avez, vous, le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre. Alors bénissez, maison d'Israël. Bénissez, maison d'Aaron. Bénissez, maison de Lévi. Bénissez, chrétiens. Vous avez un vrai Dieu. qui existe, qui a fait les cieux et la terre. C'est pas comme ce faux Dieu là. Je me souviens d'un petit Chinois qui avait reçu l'évangile dans l'école où il étudiait. Et quand il retourne dans son village, il voit un vieillard devant le temple de leur dieu shintoïste en train de brûler de l'encens devant la statue d'un humain considéré comme Dieu en quelque sorte. Et le petit va voir le vieux, il dit: vénérable vieillard, mais là, qu'est-ce que vous faites là? Vous savez, à l'Orient, on respecte les aînés. Le petit là n'avait pas ce droit là, mais il était tellement triste de voir quelqu'un se tromper de Dieu, quoi. Il a osé l'affronter pour dire: mais vénérable vieillard, qu'est-ce que vous faites là? Non, mais j'adore cette divinité. Mais le petit lui dit: ce n'est qu'une statue, ce n'est pas un dieu. Le vieillard dit: petit, tu ne comprends pas ces choses. C'est qu'en réalité, en lui, il y a un esprit. Et moi, j'adore l'esprit qu'il y a dans la statue. Le petit lui dit: ah bon? Vous voyez, vénérable vieillard, nous aussi, nous avons un esprit en nous. C'est ce qui permet qu'on bouge, qu'on mange, qu'on sourit, qu'on se déplace. Comment nous savons que nous avons un esprit en nous? C'est que quand cet esprit-là sort de nous, on est mort. On a toujours le même corps, mais on ne peut pas marcher. On a toujours le même corps, mais on ne peut pas chanter. On a toujours le même corps, mais on ne peut pas avancer. C'est que l'esprit qui faisait tout ce boulot-là est déjà parti. C'est ça notre mort. Alors regardez maintenant vos idoles. Regardez cette idole-là. Il a une barbe arrachée, ça a été cassé par quelqu'un. Mais nous, vénérables vieillards, si quelqu'un veut vous arracher la barbe, vous allez l'en empêcher par votre... L'esprit qui est en vous, puisqu'il est vivant, il va empêcher la personne d'arracher votre barbe. Et moi, si on veut regarder l'autre, il est bien sale, l'autre idole là. L'esprit qui est en lui est incapable de le laver. Mais moi, quand je suis sale, la force qui est en moi, l'esprit qui est en moi, me pousse à l'eau, m'amène vers l'eau. Donc vous voyez que s'ils avaient un esprit, cet esprit-là les aurait protégés de la barbe qui est cassée. L'autre, la barbe est cassée, un autre encore, il y a quelque chose qui est cassé. Si ces esprits-là n'ont pas pu les protéger, c'est qu'ils sont morts, vénérable vieillard. Le vénérable a dit: mais petit, qui t'a appris toutes ces choses-là? Il a dit: venez, je vais vous montrer là où j'ai appris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable, le papa de Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est pourquoi on dit: maison d'Aaron, peuple d'Israël, vous avez le véritable Dieu, bénissez. Chrétiens, bénissez le Seigneur. Regardez les autres dieux. Regardez les autres faux dieux. C'est toujours n'importe quoi. Vous allez voir les branhamistes avec leur branham. Il est mort dans un accident de voiture. C'est ça Dieu? Non. Nous venons t'élever et te glorifier, car toi seul es le véritable Dieu, au-dessus de tous les faux dieux, au-dessus de l'argent, au-dessus de mammon, au-dessus de président, au-dessus de la franc-maçonnerie, au-dessus de la rose-croix, au-dessus de la magie, au-dessus de tout ce qui peut se prénommer Dieu ici sur terre. Tout ça c'est zéro, c'est toi le véritable Dieu qui a fait les cieux et la terre. À toi la gloire, la louange pour tout ce que tu nous as encore donné ce soir. Au nom de Jésus, aide-nous à mettre en pratique tout ce que nous recevons. Amen.